bienvenue à Aime l'été, ici Chantal Lavoie, une autre heure de belles rencontres, de sujets variés. On se laisse inspirer par cette magnifique saison estivale qui nous ramène des envies de disparaître, là où il fait bon vivre. Et parlant de disparaître, on va justement parler d'un festival de magie. On va aussi découvrir des endroits pour se rafraîchir. On va partir à la découverte de champignons et plonger dans les profondeurs du fleuve Saint-Laurent avec une exposition à ne pas manquer du côté de Québec. C'est tout ça, Aime l'été. Et aujourd'hui, plus en détail, nous allons nous intéresser aux champignons et plus particulièrement à la morille avec Simon-Pierre Murdoch. On va parler de l'exposition Le Saint-Laurent et ses rives avec un plongeur très connu, Philippe Baudry. Une blogueuse et chroniqueuse nous visite, Jem Damac. Elle va nous faire notamment une liste des plus beaux jeux d'eau au Québec. Mais d'abord, place au monde de l'illusion en compagnie de Luc Langevin, porte-parole du Festival de magie de Québec, le plus grand festival du genre. Voici votre émission « Aime l'été ».
J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que si tout appellasse, les amours aussi passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton. Tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts, pour que tu m'aimes encore. Je deviendrai ses hommes. seront les nôtres. Si tel est ton désir, plus brillante, plus belle, pour une autre étincelle, je me changerai en or pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore.
Pour que tu m'aimes encore, cette chanson bien connue de Céline Dion, reprise ici par les Sœurs Boulay. Et près de 2 ans après avoir annoncé qu'elles mettaient leur carrière en veilleuse, les Sœurs Boulay ont annoncé leur retour en musique avec un 4e album qui sera lancé cet automne et sans doute des spectacles à venir par la suite. Et comme disait la chanson, je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Ben, jeter des sorts, c'est peut-être bon pour Harry Potter, mais ce n'est pas nécessairement ce que font les musiciens aujourd'hui. Quoique, on a parfois l'impression que ce sont des sorciers hein, qui nous ensorcellent tellement nous sommes mystifiés, dirais-je, par leur prouesse. Ben, j'accueille Luc là. Angevin, porte-parole du Festival Québec Ville Magique, enfin, le Festival de magie de Québec. Bonjour!
Bonjour, Chantal.
Bon, Luc Langevin, vous êtes cet illusionniste québécois bien connu ici au Québec, mais aussi partout dans le monde. Vous vous êtes produit partout en Europe, en France, notamment au Casino de Paris. Enfin, vous êtes connu par la télé. Vos émissions ont eu beaucoup de succès, toujours. À chaque fois, c'est toujours un grand moment, un événement. Vous mystifiez nos artistes. Enfin, bref, est-ce que d'abord le mot illusionniste est juste?
Oui, en fait, le terme magicien est vraiment plus global. Là, je dirais, ça désigne même les magiciens fantastiques, là, comme Gandalf ou Merlin, des vrais personnages fantastiques qui ont des vrais pouvoirs, alors que le terme illusionniste là, désigne plus ceux qui donnent l'illusion d'avoir des vrais pouvoirs. Donc, c'est un terme plus précis, mais c'est de la sémantique là, rendu là.
OK, d'accord. Parce qu'on va peut-être faire le tour tout à l'heure des différentes disciplines, entre guillemets, essayer de s'y retrouver un peu. Mais juste de parler de vous, là, dans un premier temps, vous êtes bachelier en génie physique et détenteur d'une maîtrise en optique. Vous avez commencé, ou en tout cas, vous êtes en voie de terminer peut-être, ou vous l'avez terminé, un doctorat en biophotonique.
Oui, malheureusement, je ne l'ai jamais terminé. J'ai fait à peu près 1 an et demi de doctorat, puis ensuite ma carrière d'illusionniste a pris son envol. Donc, j'ai dû me retirer. Je pense pas reprendre. Là, je considère que j'ai intégré le marché du travail avec mes connaissances scientifiques. Donc, je pense pas retourner aux études, mais j'en garde de bons souvenirs.
Ben, d'autant plus que, évidemment, tout ce bagage vous sert certainement beaucoup dans votre travail. Biophotonique, qu'est-ce que c'est exactement, juste rapidement?
Oui, en fait, c'est le mix de la biologie et de l'optique.
Ah, voilà.
Donc, c'est vraiment l'étude de la vie, biologiquement parlant, par la lumière. Mais toutes les connaissances que j'ai dû acquérir pour mener à bien ce doctorat, ça me sert énormément dans le monde de l'illusion.
J'imagine.
Il y a plusieurs magiciens aussi qui utilisent la science pour œuvrer. Voilà.
Ben oui, effectivement, les lois de la physique et de l'optique, bien sûr. Alors, d'abord, vous êtes quelqu'un de très occupé. Qu'est-ce qui vous a fait accepter d'être le porte-parole comme ça de cet événement?
Ben, c'est un incontournable. D'abord, ça a lieu dans ma ville natale, Québec, puis je connais bien les organisateurs. En fait, j'ai fait partie des premières éditions du Festival de magie de Québec il y a plus de 11 ans maintenant. Puis j'ai été présent tout au long des différentes éditions, souvent. Et là, cette année, ben, c'est l'édition la plus spectaculaire parce qu'en même temps que le festival, qui est ouvert au grand public, évidemment, il y a le championnat mondial de magie qui est vraiment là, pour les magiciens, nos Olympiques.
Ouais.
Et c'est vraiment particulier parce que ça a lieu aux 2 ans. Par le passé, depuis 1948, ça a toujours eu lieu en Europe. Et là, c'est la première fois dans son existence que ce championnat-là a lieu en Amérique. Et c'est dans la ville de Québec que ça a lieu, avant même toutes les autres villes américaines. Donc, c'est vraiment quelque chose de particulier.
Oh, c'est la première fois en Amérique du Nord, finalement.
Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment exceptionnel. C'est plus de 2500 magiciens qui sont regroupés ici pour élire des champions mondiaux. Et ben, le Festival de magie de Québec en bénéficie là, parce que ces artistes-là, ben, souvent, ils vont traverser puis ils vont venir donner des prestations dans les rues et dans les galas qui sont présentés durant tout au long du festival. Là.
Ah, alors c'est une chance finalement de les avoir ici. Est-ce que ben, le championnat comme tel, est-ce que le public y a accès? Oui.
Pas vraiment. C'est très fermé. Certains festivaliers qui achètent une passe pour tout le festival y ont accès, mais il y a deux galas qui, en fait, comme je disais, les artistes souvent vont venir performer pour le grand public aussi dans certains galas, mais le championnat comme tel, lui, il est fermé, mais le public pourra voir les gagnants.
D'accord. Bon, alors c'est ça, le gagnant qui va être révélé à la fin, j'imagine, du festival.
Voilà, dans le dernier week-end.
D'accord. Alors, bon, les différentes disciplines, bon, on parle de maître de l'illusion, mais il va y avoir quand même, bon, c'est sûr, il y a des gens qui hypnotisent les gens, comme Mesmer, hein. Bon, on parle de mentalisme, on parle de plein de choses. Des maîtres de l'évasion aussi, il va en avoir un grand, là, qui s'en vient aussi, enfin, qui était ici, là.
Oui, c'est Dean qui lui, va faire un stunt, je pense, demain, où c'est... à partir de jeudi. Donc oui, lui, c'est un maître de l'évasion canadien. Il y a des spécialistes de toutes les branches. Il y a plusieurs grands mentalistes qui sont là aussi. Il y a beaucoup de prestidigitateurs, donc tout ce qui est d'utiliser sa dextérité, son agilité pour créer l'illusion. Dans les galas, le soir, on voit beaucoup de grandes illusions aussi. Mais même sur les scènes extérieures, il y a beaucoup de magiciens qui vont faire de la magie de scène. Parce qu'il faut le dire, là, outre les galas, il y a quand même 500 heures d'animation gratuite à l'extérieur, dans les rues de Québec, dans les à Expo Cité, là, qui est le lieu principal du festival à l'extérieur. Là, il y a une vingtaine d'installations là, où les gens peuvent apprécier toutes ces branches de la magie.
Ah, c'est très intéressant. Donc, plusieurs sites, plusieurs événements. La rue qui s'anime avec plein de numéros de magie comme ça. Et puis, en parallèle, le championnat de magie. Vraiment, c'est toute une édition, bien sûr. Et puis, juste un petit mot sur le fait que, bon, de plus en plus, on retrouve aussi maintenant des femmes. C'était un fief, enfin, surtout masculin auparavant. Mais là, je pense qu'on a beaucoup de femmes maintenant qui sont très, très connues.
Oui, heureusement, ça, la magie a longtemps été un milieu très masculin, puis les femmes avaient la place d'assistante qui se faisait scier en deux. Mais heureusement, la magie entre dans l'air du temps maintenant. Puis il y a de plus en plus de femmes. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui participent à la FISM, qui compétitionnent, c'est-à-dire. Puis on peut en voir sur scène. Moi-même, ce soir, je partagerai la scène avec Juliana Chen, qui a gagné le championnat mondial il y a de cela plusieurs années. Donc, on peut bénéficier maintenant des femmes en magie et c'est parfait.
Oui, c'est ça. Mais évidemment, avec l'accès plus rapide là, à tout ce que font les autres magiciens un peu partout dans le monde, j'imagine que, bon, là, la qualité aussi est au rendez-vous. Alors, ça met beaucoup de pression pour créer de nouveaux numéros. Justement, le public aussi est de plus en plus exigeant. Comment vous vivez ça, vous, Luc Langevin? Vous créez des attentes.
Oui, c'est certain. C'est sûr, ça met une énorme pression sur les artistes. Mais en même temps, ça nous force à nous dépasser puis à vraiment se creuser la tête pour trouver des effets, des illusions que les gens n'ont pas encore vues. Heureusement, la société change aussi. Donc, il y a de nouvelles technologies qui apparaissent qui nous permettent de créer justement des tours qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Donc ça nous aide. Mais c'est sûr que maintenant, on doit encore plus innover qu'avant. On ne peut plus rouler aussi longtemps sur les mêmes numéros parce qu'avec Internet, avec tous les médias maintenant, le mot se passe vite. Donc, mais c'est le public qui en bénéficie parce que ça force les artistes justement à se renouveler, à redoubler de créativité et le public en bénéficie.
Oui, parce qu'avant, on pouvait rouler sur le même numéro longtemps, mais là, plus maintenant, c'est ça. Alors, ça vous force à créer toujours de nouveaux numéros. C'est quand même quelque chose et ça veut dire aussi travailler en collaboration avec plein de collaborateurs, j'imagine, hein, pour créer de nouveaux numéros, le matériel, enfin, c'est quand même, j'imagine que c'est très exigeant, oui.
Absolument. Puis des événements comme le championnat mondial en ce moment, c'est aussi un grand congrès de magiciens. Donc tous ces magiciens-là en profitent pour se rencontrer, collaborer, échanger, se vendre des numéros, des techniques, parce que on est plus fort à plusieurs. Hein? Donc les magiciens justement s'entourent de consultants, de spécialistes qui les aident à créer leurs illusions. Donc c'est aussi un lieu de rencontre entre les magiciens ici.
Ouais, c'est ça. Donc une belle collaboration quand même et non pas une compétition nécessairement entre les magiciens. C'est ça que vous êtes en train de me dire.
Oui, c'est quand même une grande famille. On est peu, donc on se connaît à peu près tous. Mais des événements comme le championnat mondial, c'est l'occasion pour les magiciens de voir plusieurs légendes de la magie en vrai. Souvent, ce sont des gens comme magiciens qu'on a vus sur des couvertures des livres, des magazines. On les a vus sur des vidéos qui pour nous enseigner certaines techniques. Donc, de pouvoir rencontrer ces gens-là en vrai, c'est vraiment, c'est vraiment un rêve qui devient c'est tout un privilège, pour plusieurs jeunes illusionnistes. Ouais.
Ah là là. Alors, c'est jusqu'à dimanche. Hein? Alors, évidemment, il va y avoir ce gala de clôture. Il va y avoir encore plein d'événements, c'est sûr. Alors, ben, de toute façon, alors, c'est lancé. Ça va durer quand même quelques jours. On a bien hâte de voir qui va remporter le championnat mondial de magie 2022. Alors, c'est un privilège d'avoir ça chez nous. Alors, donc, Luc Langevin, ben, je vous souhaite quand même une bonne édition cette année et d'avoir beaucoup de plaisir et puis de faire de belles rencontres.
Ben, merci beaucoup. J'y tâcherai. Puis écoutez, le site web, lefestivaldemagie.ca pour tous les détails, pour les gens qui veulent
c'est
voir
ça.
Qu'est-ce qu'il y a ou acheter des billets. Tout est là.
Tout est là, effectivement. Donc, on va retrouver notre regard d'enfant et se laisser bercer d'illusions au Festival Québec Ville Magique, enfin le Festival de magie de Québec. Merci, Luc Langevin.
Merci, Chantal.
Au plaisir. Au revoir.
Au revoir.
If I had a mushroom, I'd tell you what I'd do. I would take that mushroom and split it in two. Oh, if I had a mushroom, I'd tell you what I'd do. I would take that mushroom, and I hope that you would too. The sky would look all cloudy, it'd be making shapes and such. We'd be dreaming about the future, and we both know that ain't much. Oh, and if I had a mushroom, I'd split it with you. I would take the mushroom and give the other half to you. We could hang a hammock between our two trees. We can sit and listen.
C'était la pièce « Mushroom Song », hein, vous aurez deviné bien sûr. Et nous allons partir justement à la cueillette de champignons et tout particulièrement des morilles. Et oui, les morilles, on les aime, on en raffole même. Vous voulez savoir où et quand trouver des morilles, comment les cuisiner, le nombre de calories qu'elles contiennent, leurs bienfaits. Ben, on en parle justement avec Simon-Pierre Murdoch, fondateur de Morilles Québec. Bonjour!
Bonjour à vous!
Bon, vous êtes en forêt présentement. Alors, vous êtes en train de ramasser, de faire la cueillette de champignons ou quoi?
En fait, même pas. Ma conjointe, elle trouve plein de champignons partout, mais jusqu'à là, aucun qui était comestible, juste des champignons toxiques.
D'accord. Eh bien oui, alors, effectivement, bon, fort heureusement, je pense que vous avez changé de téléphone parce que le vôtre était en train de mourir, effectivement, dans la forêt.
Exactement. Bon. Au moment où je vous parle, je viens de trouver une petite aile de chanterelle, justement, juste en avant de moi.
C'est si bon, ça aussi, les chanterelles. Alors, la morille, ce qu'il faut savoir sur ce champignon, morille séchée, morille fraîche, en omelette ou en lamelles, bon, enfin, vous allez pouvoir peut-être nous donner quelques petites suggestions. Mais écoutez, vous êtes président et fondateur de Morille Québec. Ben, mon Dieu, depuis quand existe cet organisme?
On a démarré Morille Québec en 2008. Donc, j'étais étudiant à l'Université du Québec en biologie forestière. Puis, je suis tombé sur une table de morilles comme ça par pur hasard. Je les ai récoltées. J'ai essayé de les cuisiner. Ça n'a pas marché. Finalement, j'ai vendu à un restaurant. Puis, le restaurant m'a dit, ben retourne en chercher. Je vais t'en racheter demain.
Ah bon? Alors, c'est comme ça que vous avez commencé, vous, à vous spécialiser dans la cueillette de morilles. Vous avez eu un contrat immédiatement.
Exactement. Je ne savais pas sur quoi j'étais tombé. Puis, disons qu'on est tombé à la bonne place sur l'or noir des forêts qu'on appelle la morille, qui
c'est
super champignon à cuisiner.
Chose certaine, donc sur ce site, vous allez avoir toutes les informations concernant les morilles et puis finalement comment aussi s'outiller, s'équiper hein, pour aller faire la cueillette de champignons. Alors c'est vraiment un site assez complet, vous donnez toutes sortes de petits conseils et tout, de mise en garde également. Parce qu'évidemment, ne ramasse pas des champignons. Enfin, c'est pas tout le monde là, qui peut ramasser des champignons. Il faut quand même s'y connaître très bien.
Exactement. La cueillette de champignons, c'est vraiment... Ça peut être une expédition périlleuse quand on n'a pas de formation et d'expérience. On veut tout le temps être en vie. On veut tout manger. On veut tout identifier. On se pose toujours la même question. Est-ce que ça se mange? Ça se mange pas? Mais ça peut être risqué là, parce qu'il y a beaucoup de champignons et de plantes de la forêt aussi qui détiennent des toxines qui peuvent être assez élevées, là, qui peuvent aller jusqu'à faire mourir des gens, les intoxiquer, leur donner des nausées, vomissements. Donc, ça peut être grave. Il faut vraiment
prendre ça au sérieux.
Une formation. Il faut prendre ça au sérieux. Ou être avec des gens qui ont d'expérience, au moins 5 à 10 ans d'expérience. Suivre des formations, soit dans les universités ou les cercles de mycologues, souvent là, des régions... Ça va bien outiller pour former les gens théoriques et pratiques.
C'est vrai. Il y a vraiment un engouement pour ce genre de cueillette. Et puis, de toute façon, bon, est-ce que ça vous est déjà arrivé, une mauvaise expérience?
Moi, ça m'est arrivé l'année passée. Moi-même, personnellement, je cuisine de temps en temps avec le tuyau, avec le cèdre qu'on connaît, là, justement, dans le Nouveau-Brunswick. Hier, j'étais à la brasserie Fils du Roi qui font le tuyau à base de cèdre. Puis les branches de cèdre, quand tu les fais infuser plus que 2-3 minutes, parce que tu peux remplacer le thym hein, par le cèdre, ça a les mêmes saveurs de thym. Mais après 2-3 minutes, ça peut venir à libérer une toxine. L'huile essentielle du cèdre peut vous apporter étourdissement, nausées. Fait que je faisais cuire un porc effiloché avec du cèdre, puis j'ai attendu trop longtemps. Puis, une année, j'ai commencé à me sentir, j'étais comme, j'ai juste pris 2 bières, je comprenais pas. Je pensais que je commençais à être un peu avant. Tu sais, là, un peu. Mais finalement, non, je m'étais intoxiqué au cèdre.
Ah, mon Dieu, alors vraiment, ouais, c'est ça, il faut vraiment être prudent. Alors donc, ces champignons sauvages qu'on ne cueille pas seulement en automne, hein, ça peut se cueillir aussi assez tôt au printemps.
Absolument, c'est dès la fonte des neiges, là, on trouve des morilles qui commencent à pousser, donc la fonte de l'hiver, de la neige fait drainer le sol, ce qui donne une chance aux morilles de pouvoir... sortir du sol, c'est un bon moment pour eux. Puis on retrouve aussi les têtes de violon. Donc, morilles et têtes de violon, c'est pas mal les premiers légumes, on va dire, du printemps. Ça commence très, très tôt. Dépendant des années. Cette année, ça a commencé dans la deuxième, troisième semaine du mois de mai, dépendant à quelle latitude on était au Canada. Ouais. Donc, c'est les premiers qu'on trouve.
Alors, peu calorique, hein, la morille, bien vitaminée aussi. Quels sont leurs bienfaits?
Ben, en fait, justement, hypocalorique, les champignons, c'est un bon produit pour la cuisine végétarienne. Ça donne énormément de saveur, ça donne de la texture, ça a un goût qui est phénoménal, le petit côté boisé, fruité par moment, exemple avec les chanterelles. Puis on trouve beaucoup de vitamines et minéraux à l'intérieur des champignons. On trouve pas de protéines, mais le fait que le champignon décompose le sol, donc il va chercher toutes les vitamines et minéraux qu'il y a à l'intérieur, donc calcium, ion, que ce soit différents oligo-éléments qui vont être capables d'être dans le champignon, donc très fort en vitamines et minéraux.
D'accord. Et puis, ça peut être toxique, mais cru, hein? Si on les fait cuire, il n'y a pas de problème, les morilles.
Il faut les faire cuire. Ben, en fait, la majorité des champignons, même les champignons blancs, on ne devrait pas... On ne devrait pas les consommer crus. Ben, ça va être, en petite quantité, c'est pas bien grave, mais il faut absolument leur amener une cuisson là, à haute température, tous les champignons. À part lorsqu'on les fait déshydrater, quand on les fait sécher, ça se trouve être une sorte de cuisson par séchage, en le montant à 80 à 100 degrés. Donc, ça permet d'éliminer les toxines. Puis les morilles spécifiquement doivent être absolument être cuits à haute température pour libérer cette toxine-là.
En fait, quand il y a des morilles, surtout quand il y a après les incendies, apparemment que là, c'est très favorable pour les morilles après des incendies.
Ah ben oui, j'ai été souvent pointé du doigt à savoir si j'avais déclenché des feux. La réponse est non.
Oui.
on cueille les morilles après les feux, mais on ne déclenche pas les feux. Donc, avec mon équipe, on va cibler les feux de forêt un an après, comme on a fait l'année passée à Chute des Passes, il y avait eu des gros feux dans le nord du Saguenay-Saint-Jean. On cible les feux de forêt qui sont dans des forêts de pins gris, parce que le pin gris travaille beaucoup en association avec les morilles. Puis on va aller récolter les morilles dans ces endroits-là. Donc, un an après, 2 à 3 ans après, ça va pas vraiment pousser. C'est vraiment plus l'année d'après là, qu'on trouve les bonnes quantités de morilles. Donc, c'est arrivé vers l'or dans les feux de forêt.
Bon, ben d'accord. Alors, évidemment, c'est un peu difficile quand même à dénicher, mais en tout cas, chose certaine, quand on les cuisine, un peu de beurre, de crème, enfin, tout ce qu'on veut dans les pâtes. Donc, si on va sur Morilles Québec, on va avoir aussi toutes ces suggestions.
Absolument. La crème, c'est un agent liant qui est super intéressant. Justement, hier soir, je suis au Nouveau-Brunswick, j'étais sur la pointe Sapin. On a fait cuire des pétanques, des crevettes avec une belle poêlée de chanterelles qu'on avait récoltée.
Ah, ben là. Herbe, vous me donnez faim. Vous me donnez faim. Ben, monsieur Murdoch, Simon-Pierre Murdoch, merci bien d'être venu nous parler de morilles de champignons sauvages. Et je vous souhaite une bonne journée en forêt. Au revoir.
Merci. J'ai même cueilli des chanterelles en même temps. Bonne journée.
Merci. Au revoir. Profitez-en.
Au revoir.
Vous écoutez Aime l'été.
Et oui, Aime l'été, diffusé du lundi au vendredi entre midi et 13h, deuxième demi-heure de l'émission. Ici Chantal Lavoie et j'en profite pour remercier nos recherchistes Camille Cusset et Méliane Fafard, ainsi que Mathieu Tessier à la mise en onde. Alors bonjour Mathieu, alors je le salue. Un petit mot, non, c'est ça, je vous prends toujours de court.
Oui, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. C'est juste que les deux recherchistes sont avec moi présentement dans la région.
Ah bon, ben alors je les salue, oui, voilà. Alors merci bien, et puis celles qui nous trouvent toujours des sujets formidables. Sachez que, bon, justement, il y a le Festival Haïti qui s'en vient. J'en ai parlé hier, j'en ai glissé un mot, le Festival Haïti en folie. Alors, ça va se passer au Parc La Fontaine. Et puis, demain, en fait, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, 26 juillet, on présente en primeur une discussion entre la grande Joséphine Bacon et René Saint-Éloi, ce poète haïtien. Alors, vous allez en ligne, c'est tout à fait gratuit. Alors, tous les détails sur le site, donc, parce que le Festival Haïti en folie présente aussi un beau volet littéraire. Ensuite, il y a Dany Laferrière aussi qui sera présent ce samedi 30 juillet au Parc La Fontaine à 15h pour une séance de signature. Voilà. Alors, on poursuit, bien sûr, en musique dans un instant. Et par la suite, on va quoi s'entretenir? On va parler, attendez, notre prochain invité, c'est... Philippe Baudry, oui, plongeur de renom, qui nous parle d'une exposition « Le Saint-Laurent et ses rives ». Voilà.
J'ai longtemps voyagé le long de l'Amérique. Il est tellement blanc et les Indiens l'habitent. J'aperçois au loin ce fleuve dont on m'a tellement parlé.
Il est tellement grand, c'est sûrement lui qu'on surnommait le Saint-Laurent. Mississippi, la route des Blancs, les entrailles de l'un de mon ami, le cri du vent, Kitchisébé, chemin du nouveau temps, les entrailles de l'un de mon ami, c'est ce qu'ils ont dit. Une montagne de glace qui lentement se déplace. C'est un grand bateau blanc qui remonte le courant. Tu lui montres le chemin, il lui prendra ton destin. Suivi de centaines de bateaux qui changeront le cours d'eau du Saint-Laurent. Mississippi, la route des Blancs. Sans jamais s'améliorer, mon beau fleuve en or, rempli de grands ports, des ports où tout le monde vient, et on jette puis ça fait rien. Maintenant on le pleure, ce fleuve rendu méchant, le Saint-Laurent.
Robert Detier, sa chanson Le Saint-Laurent, auteur, compositeur, interprète natif de Montréal. Et oui, et puis celui qui a vécu au lac Labelle, mais c'est dans la région de Saint-Sauveur et de Morin Heights qu'il a concentré ses activités musicales. Cette chanson, Le Saint-Laurent, qui a été présentée sur les ondes de radio commerciale et qui se veut un hommage à notre fleuve. Robert Detier qui effectuait une tournée des quais pour des spectateurs en bateau durant la pandémie. Alors, original, effectivement. Donc, on reçoit à l'instant Philippe Baudry pour justement parler de notre fleuve Saint-Laurent qui n'a pratiquement plus de secrets pour vous, Monsieur Baudry. Bonjour.
Bonjour, madame.
Alors oui, effectivement, d'ailleurs, vous nous présentez une exposition fort intéressante là, du côté de Québec, on va en reparler. Alors vraiment, on pourra voir plein d'artefacts et enfin plein de choses. Maintenant, je veux parler évidemment de votre travail en tant que plongeur dans les années 60. Hein, vous avez fait à peu près 600 plongées, je pense, où en fait, on sait que bon, il y a dans la région de Rimouski cette épave de l'Empress of Ireland. Alors vous avez vous-même été parmi les premiers à aller plonger de ce côté-là.
Ouais, c'est-à-dire que l'épave a été découverte en 1964. Ils ont fait un film en 1965. Ça a été vraiment abandonné. Et moi, j'ai recommencé à plonger en 70 jusqu'à 2006.
D'accord. Donc, effectivement, ça fait beaucoup de plongées. Ça. Comment c'était de plonger? En fait, c'était comme le Titanic, finalement, cette histoire.
Dans une certaine mesure, oui, parce qu'il y a plus de passagers qui sont décédés sur l'Empress que sur le Titanic. L'Empress a coulé en dedans de 14 minutes, alors que le Titanic, ça a pris plus de 2 heures. Donc, ils ont pu organiser un sauvetage.
Oui, c'est ça. Donc, il y a des gens qui ont survécu, bien sûr. On parle du Titanic, mais dans le cas de des victimes de l'Empress, là, combien il y a eu de victimes? Je pense qu'il y en a eu au moins 1000, hein, 1012 victimes à peu près.
Oui, c'est ça, exactement. 1012 personnes qui ont perdu la vie.
Et ça vous a préoccupé aussi à un moment donné dans votre carrière, c'est-à-dire que vous allez vous intéresser bien sûr à toute cette histoire, vous allez aussi remonter plein d'objets, mais par la suite aussi les survivants, vous allez également vous y intéresser à ces gens.
Oui, j'en ai rencontré une douzaine fin des années 70, début des années 80, donc je me suis déplacé au Canada et en Angleterre pour rencontrer ces personnes-là.
Et quand même, on estime aujourd'hui qu'environ 1 million de Canadiens sont des descendants des passagers arrivés justement à bord de l'Empress of Ireland de 1906 à 1914. Alors vraiment, c'était un bateau qui était quand même important.
Oui, c'était un des deux bateaux les plus gros de Canadian Pacific. Et qui faisait la traversée de Liverpool jusqu'à Québec. Et il avait le contrat de courrier. Et surtout, amener des immigrants pour aller occuper les provinces de l'Ouest.
Mm-hmm. D'accord. Et puis bon, quand je pense à toutes ces plongées que vous avez faites, c'est sûr que bon, il y a beaucoup d'artefacts qui ont été remontés à la surface. On en retrouve bien sûr au Musée maritime du Québec et au site historique maritime de la Pointe-aux-Pères, là, dans le secteur, dans la région de Rimouski, bien sûr. Et puis vous en avez vous-même, en fait, vous aviez quand même toute une collection que vous avez vendue également.
Oui, j'ai vendu la collection que j'avais accumulé depuis le 1970 au Musée de la Civilisation, mais il faut prendre en considération que j'ai fait une donation de 1 350 000 $ au Musée canadien de l'Histoire.
C'est ça. En fait, il faut dire qu'à l'époque, ce n'était pas nécessairement réglementé. Bon, l'histoire de permis, tout ça, ça n'existait pas nécessairement. Alors vous avez quand même milité aussi pour qu'il y ait une protection à ce niveau-là. Et puis, parce que c'est sûr que ça pouvait être, comme vous dites, un peu le free-for-all là-dedans. Là.
Oui, mais il y avait une loi qui existait, qui était la loi de l'amirauté, où on devait déclarer tout artefact qu'on pouvait retirer d'un bateau. Cette loi-là n'était pas appliquée, et moi, à partir de 1976, j'ai déclaré toutes les pièces au receveur des épaves, et ça a créé un remous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas les déclarer.
Je comprends. Alors, c'est ça. Mais vous avez vraiment tenu le plus possible à ce que qu'il y ait une protection à ce niveau-là. Et puis, vous avez eu une belle collaboration quand même avec les archéologues aussi, dans une certaine mesure.
On a eu des problèmes avec les archéologues, puisque il y a un archéologue supporté par 5-6 collègues qui a voulu contester l'achat des artefacts par le Musée canadien de l'Histoire, et ils ont été fortement rabroués, et il y avait matière à les poursuivre, parce que il y avait plein de mensonges dans leurs déclarations.
Mais la plupart, maintenant, reconnaissent votre travail. C'est vraiment à cause de... Je pense que vous étiez important quand même pour la plupart des archéologues parce qu'on avait besoin tout de même de votre expertise, de votre savoir-faire en tant que plongeur aussi. Alors, quand même, on a reconnu votre travail et puis tout ce qui a été fait. Et d'abord, vous risquez aussi votre vie, il faut bien le dire. Il y a des gens qui en sont morts. Qui sont allés visiter l'épave.
Oui, il y a 6 personnes qui sont décédées et moi-même, j'ai passé proche de mourir à 3 occasions, dont une en particulier à manquer d'air à 140 pieds.
C'est pas rien, là. Alors, effectivement, vous avez eu peur à bien des reprises?
Ben oui, c'est normal. Écoutez, mais il n'y avait pas juste le stress. Moi, comme j'avais rencontré des survivants, pour moi, j'avais une relation spéciale. Alors que j'allais à l'intérieur de l'épave, je pensais à ces gens-là qui avaient survécu.
Je comprends. Et dites donc, alors l'exposition qu'on va voir à Québec, dites-nous ce que l'on peut voir.
Écoutez, c'est une exposition qui concerne le Saint-Laurent de Sainte-Flavie aller jusqu'à Kingston, 20 % d'écosystème, 30 % de navigation et 50 % de l'histoire. Donc, c'est sur deux niveaux. Place de Paris, où on parle strictement du fleuve, et au deuxième étage, 20 rue Saint-Pierre, on parle de navigation avec des instruments de navigation, des artefacts, et on parle de naufrage aussi.
D'accord. Alors vraiment, c'est une très belle exposition à ne pas manquer, qui est présentée quand même pas encore pour un bon bout de temps, là.
Oui, jusqu'à la fin d'octobre.
Bon, parfait. Eh ben, en 1999, le gouvernement du Québec classe enfin l'épave à titre de bien culturel. On parle toujours de l'Empress of Ireland. Alors, donc, 10 ans plus tard, là, on vole le Canada en fait un lieu historique national. Alors, c'est vraiment aussi en grande partie à cause de vous aussi. Alors, cette épave mythique qui aura certainement fait œuvre éducative aussi en rapprochant les passionnés du monde sous-marin, amateurs et professionnels. Ben, en tout cas, bravo et Philippe Baudry, on ira voir l'exposition effectivement à Québec, du côté de Québec.
Parfait. On vous remercie beaucoup.
Merci infiniment. Au revoir et bonne journée à vous.
Merci.
Blinded by the thought of losing pace, higher tide. We don't pay attention, riding high away. You say that you love me, but you don't. You love the things I do for you. I take you to the water park. Don't mix that up with iron hearts. Slip inside emotions that keep me up in death.
La pièce Water Park du groupe Sneaky Peaches and the Fuzz, originaire de la ville de Austin au Texas, groupe fondé en 2020 dans cette période un peu chaotique et qui se démarque donc par des chansons estivales, pourrions-nous dire. Eh bien, parlant d'été et de jeux d'eau, notre prochaine invitée va nous faire, entre autres, une liste des plus beaux jeux d'eau au Québec. J'accueille Jem Damac. Bonjour!
Bonjour Chantal, ça va bien?
Mais très bien, et oui, fondatrice, rédactrice en chef, blogueuse et chroniqueuse pour, entre autres, Je suis maman. Vous animez ce blog?
Oui, en fait, c'est un blog Je suis une maman. J'ai fondé ça il y a presque 13 ans.
Oh, déjà?
Oui.
Eh bien oui, vous êtes très active parce que, bon, vous avez travaillé aussi à la radio, à la télé comme chroniqueuse. Vous avez travaillé dans l'industrie du voyage, donc le voyage, vous avez toujours été intéressée par le voyage. C'est au cœur de votre vie, même si vous êtes maman.
Oui, en fait, j'ai toujours trouvé important, dès que mes enfants étaient petits, l'importance de partir avec eux parce que j'ai l'impression... quand on part à l'aventure, on apprend tellement de choses sur nous, on vit des moments magiques, ça crée vraiment des souvenirs. Mes enfants se rappellent des premiers voyages, puis ça amène vraiment une discussion intéressante avec eux, et je pense que c'est un beau cadeau qu'on peut leur offrir.
C'est vrai. Alors, c'est vrai que c'est un beau cadeau à faire à sa famille, et puis ça les aide beaucoup à comprendre plein de choses, comprendre le monde. En tout cas, ça les ouvre à d'autres réalités, et puis c'est ça, ça leur donne une ouverture, ça c'est certain. Et puis ça les amène aussi à devoir s'adapter, très important.
Tout à fait, en effet, oui.
Alors comment, à travers le blog, à travers toutes vos expériences, en fait, comment choisissez-vous vos sujets là au fil de vos déplacements, de vos voyages? Parce que évidemment, vous allez vous ratisser large, hein, vous parlez non seulement de voyages, mais là justement, on va parler de beaux jeux d'eau au Québec. Vous nous faites découvrir ça?
Oui, mais en fait, j'ai décidé il y a très longtemps que le but avec le blog, c'est vraiment d'offrir différents ingrédients pour que les familles puissent choisir les ingrédients qui leur plaisent pour qu'ils puissent vraiment créer la recette qui vont faire le bonheur chez eux. Parce qu'on est tous différents, on a tous des besoins différents. Et je pense que l'été avec les enfants, surtout les familles qui ont les enfants à la maison à temps plein, qui sont peut-être pas en temps de jour, on cherche des idées, on veut faire des sorties à petit prix. Et quand on a réalisé qu'il y avait de plus en plus de municipalités puis de quartiers, qu'il y avait des jeux d'eau, puis on pouvait y accéder gratuitement, on s'est dit, tiens, on va essayer de faire un texte où on va regrouper. On a fait un sondage Facebook, on a demandé aux lecteurs, lectrices, quels sont vos jeux d'eau coup de cœur? Et on a pu regrouper le tout pour en faire un texte sur le blog.
C'est ça, parce qu'au-delà des piscines maintenant, c'est vrai, on retrouve de plus en plus dans les différentes municipalités ces fameux jeux d'eau. Très intéressant, les enfants y trouvent vraiment leur compte et puis c'est très amusant.
Oui, puis ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'ils sont pas mal accessibles de la mi-mai à la mi-septembre. C'est gratuit. Et puis pour les enfants qui ne savent peut-être pas nager, ben c'est une option hyper le fun pour pouvoir se rafraîchir l'été, surtout en temps de canicule. Et puis, des fois même, les jeux d'eau sont tout près des piscines et des parcs. Donc, on peut s'y rendre en famille et on peut, se rafraîchir. Mais après ça, on peut aller jouer dans les modules. On peut peut-être même se baigner dans la grande piscine. Donc, ça offre vraiment beaucoup d'options pour les familles. Puis les jeux d'eau qui sont conçus, tu sais, je me permets de faire un chapeau à des personnes qui travaillent sur ces projets-là, ils sont tellement beaux. Il y a des belles couleurs, on pense, tu sais, il y a de l'imagination derrière ça. On veut que les enfants s'amusent. Et puis il y a même des jeux d'eau qui ont des conceptions pour petits-enfants, les enfants et même les ados. Donc on y trouve des zones distinctes pour vraiment plaire à toute la famille.
Oui, puis il y a des jeux d'eau adaptés pour les fauteuils roulants, même que, on peut en trouver sur place à certains endroits, là.
Oui, écoute, c'est tellement fabuleux. Donc, quand on a sondé il y a quelques années les lectrices du blog, on a réalisé que justement, il y avait de plus en plus d'endroits avec justement des conceptions pour accueillir ces enfants-là. Donc, par exemple, à Trois-Rivières, il y a deux fauteuils roulants qui sont adaptés à la piscine du parc. Donc, ceci permet aux enfants handicapés de profiter des différents jeux d'eau. Il y a aussi à Longueuil, il y a maintenant deux fauteuils roulants qui sont résistants à l'eau, donc qui permet aux enfants de profiter des jeux d'eau au parc de la Cité. Et ça, c'est ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les enfants ne pourront pas abîmer leur propre fauteuil. Donc, c'est bien de ce côté-là. Et puis, à Montréal, au parc Ferland, on peut louer une chaise adaptée pour s'amuser dans les jeux d'eau. Et puis, à Salaberry de Valleyfield, au parc Saint-Joseph Artisan, ils ont conçu des jeux d'eau. Toutefois, les jeunes doivent prendre leur propre fauteuil, mais ils ont vraiment conçu un endroit où ils peuvent aller vraiment s'amuser. Donc, il y en a vraiment de plus en plus. Mm-hmm. Et là, je sais, aujourd'hui, on parle de jeux d'eau, mais je veux juste mentionner que le site trouvetonsport.ca, on va également retrouver une liste de parcs qui ont des aires de jeux accessibles pour les enfants également.
Répétez-moi le site exactement, là.
Trouvetonsport.ca.
Ah, trouve ton sport. Parfait. Alors, oui. Ça, c'est intéressant, oui, effectivement. Donc, plus sécuritaire, donc, ces jeux d'eau, bien entendu. Alors, et puis, effectivement, pour des jeunes qui sont à mobilité réduite, ou enfin, des adultes aussi, j'imagine, jusqu'à un certain point. Mais il y a aussi tous ces jeunes qui, peut-être, qui souffrent du spectre de l'autisme, qui, peut-être, bon, pour eux, c'est peut-être plus facile d'aller dans ces jeux d'eau encore là que peut-être la piscine. C'est très relatif, là, ça dépend toujours. Mais en tout cas, je pense que enfin, les parents connaissent bien les enfants, leurs enfants. Alors, bref, ils en ont, ils ont le choix. Et en allant sur votre blog, en fait, vous nous donnez, je pense, cette liste complète de parcs avec ces jeux d'eau. On n'a qu'à cliquer sur chaque parc et puis on va avoir toutes les infos. Ça nous amène dans les, enfin, sur le site de municipalité, quoi, en fait, oui, qui nous parle de ces parcs.
Oui, en fait, et on essaie de mettre le texte à jour chaque année, mais si je peux me permettre, si jamais vous êtes en déplacement cet été, si vous vous dites « Oh, ça serait donc bien intéressant peut-être aller avec les enfants se rafraîchir », vous pouvez aller justement directement sur les sites des différentes municipalités. Il y a également des pages Facebook où on retrouve l'information. Puis moi, là, quand je voyage avec les enfants, faut pas avoir peur de demander. Moi, j'aime ça rentrer à l'épicerie, puis quand je suis à la caisse, je vais poser comme question, bon, mais c'est quoi votre meilleur spot pour ça? Quel parc je devrais visiter avec les enfants? Souvent, les gens sur place, dans les villes où vous êtes en vacances, sont vraiment des mines d'or d'informations, donc n'hésitez pas à leur demander c'est lequel, là? Si j'avais un jeu d'eau à faire aujourd'hui, où devrais-je aller? Puis souvent, ces gens-là peuvent bien vous informer aussi.
Ouais, c'est un bon truc, en tout cas. Je sais que parfois, vous savez, on se perd, hein, voyage, bon, alors au lieu de chercher par nous-mêmes. Ben, des fois, moi, j'aime mieux m'arrêter. Et puis, c'est une occasion de justement de parler à du monde puis de demander des conseils. De pas juste son chemin, mais aussi de parler. Puis on découvre plein de choses comme ça. Alors, belle suggestion. Voyageant en famille, évidemment, vous nous avez déjà, je pense, donné quelques petits conseils là-dessus. Ou enfin, bon, j'imagine que vous avez quelques conseils à donner aux gens qui voyagent comme ça en famille.
Bien, en fait, ceux qui voyagent, puis aussi, par exemple, tu sais, la ville de Montréal, on en retrouve, là, tu sais, il y a tellement de parcs. D'ailleurs, je suis tombée sur un texte dans la Presse Plus de 2018, et puis, il parle justement des plus beaux jeux d'eau dans la région de Montréal. Et puis, on parle à Christine Latraille, qui est mère de deux enfants. Elle a visité plus de 800 parcs et 150 jeux d'eau autour de Montréal, dans la région de Montréal. Et là, ça m'a fait penser, tu sais, souvent avec nos enfants, on a une routine. On va au même parc, on va dans les mêmes jeux d'eau. Mais peut-être cet été, comme on pourrait donner comme défi, de peut-être aller visiter un autre quartier, un autre arrondissement. On va peut-être tomber sur un autre parc et d'autres jeux d'eau qui sont extraordinaires, qui vont nous permettre d'avoir peut-être différents choix avec les enfants quand on veut sortir et faire une activité. On sait que les enfants aiment ça, la nouveauté. Donc, ça permettrait peut-être d'ouvrir un peu nos horizons et découvrir d'autres beaux endroits parce que quand même 150 jeux d'eau juste autour de Montréal, je me demande c'est quoi le chiffre à travers la province.
Eh, hey, quand même, c'est impressionnant, en effet. Oui. Bon, ben écoutez, alors on s'en va sur votre blog pour en savoir plus long. Chose certaine, bon, dans votre blog aussi, vous nous faites découvrir plein de choses. Vous vous êtes intéressé, ça aussi, parlant d'ouvrir ses horizons. Enfin, vous nous avez sensibilisé à la diversité corporelle également. Ça fait un certain temps, vous aviez quand même un beau projet, la campagne 30 couleurs.
Oui, mais en fait, on trouve ça important. J'ai le bonheur de travailler avec une équipe de collaboratrices et puis c'est vraiment important pour nous d'aborder tous les sujets parce que c'est certain que ça va aller interpeller au moins une personne. C'est vraiment ça notre objectif chez nous, c'est vraiment de parler de tout. Tout le monde a sa place chez nous et puis bien, ça nous fait plaisir là, d'aborder ces sujets-là.
Oui, effectivement. Alors, j'aime Damac, chroniqueuse et blogueuse. Je suis une maman. On va sur votre site assez facilement. Et puis, très beau site, d'ailleurs, bien fait. Alors, plein de renseignements de toutes sortes. Alors, vraiment. Et puis, vous avez d'autres projets comme ça?
Ben écoute, toujours occupé, toujours des projets plein la vue. En fait, là, cet été, on est plutôt à la maison, mais ça bourdonne d'idées là, pour l'automne.
Bon, ben merveilleux. Alors, au plaisir, ben passez un bon été avec vos enfants, avec votre famille, et puis trouvez-nous plein d'autres sujets comme ça.
Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup.
D'accord. Bonne journée à vous.
Au
plaisir. Bye bye. Eh bien, chers auditeurs, je termine toujours ainsi en vous disant je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi à vous. On va se retrouver demain, déjà mercredi, milieu de semaine demain. Alors, on sera là entre midi et 13h. Et oui, j'aime l'été. Alors, pourquoi pas? Ben oui, on a plein d'activités, plein de belles rencontres à faire encore. Au revoir, bonne journée!